Madame Bovary, deuxième partie, chapitre 14. D'abord, il ne savait comment faire pour dédommager Monsieur Homais de tous les médicaments pris chez lui. Et quoiqu'il eût pu, comme médecin, ne pas les payer, néanmoins, il rougissait un peu de cette obligation. Puis, la dépense du ménage, à présent que la cuisinière était maîtresse, devenait effrayante. Les notes pleuvaient dans la maison. Les fournisseurs murmurait. Monsieur Lheureux surtout le harcelait. En effet, au plus fort de la maladie d'Emma, celui-ci, profitant de la circonstance pour exagérer sa facture, avait vite apporté le manteau, le sac de nuit, deux caisses au lieu d'une, quantité d'autres choses encore. Charles eut beau dire qu'il n'en avait pas besoin, le marchand répondit arrogamment qu'on lui avait commandé tous ses articles et qu'il ne les reprendrait pas. D'ailleurs, ce serait contrarier madame dans sa convalescence. Monsieur réfléchirait. Bref, il était résolu à le poursuivre en justice plutôt que d'abandonner ses droits et que d'emporter ses marchandises. Charles ordonna par la suite de les renvoyer à son magasin. Félicité oublia. Et il avait d'autres soucis. On n'y pensa plus. Monsieur Lheureux revint à la charge et tour à tour menaçant et gémissant, manœuvra de telle façon que Bovary finit par souscrire un billet à 6 mois d'échéance. Mais à peine eut-il signé ce billet qu'une idée audacieuse lui surgit. C'était d'emprunter 1 000 francs à Monsieur Lheureux. Donc il demanda, d'un air embarrassé, s'il n'y avait pas moyen de les avoir, ajoutant que ce serait pour 1 an et au taux que l'on voudrait. Lheureux courut à sa boutique, en rapporta les écus et dicta un autre billet par lequel Bovary déclarait devoir payer à son ordre, le 1er septembre prochain, la somme de 1 070 francs, ce qui, avec les 180 déjà stipulés, faisait juste 1 250. Ainsi prêtant à 6%, augmenté d'un quart de commission, et les fournitures lui rapportant un bon tiers pour le moins, cela devait, en 12 mois, donner 130 francs de bénéfice. Et il espérait que l'affaire ne s'arrêterait pas là, qu'on ne pourrait payer les billets, qu'on les renouvellerait, et que son pauvre argent, s'étant nourri chez le médecin, comme dans une maison de santé, lui reviendrait un jour considérablement plus dodu et gros à faire craquer le sac. Tout d'ailleurs lui réussissait. Il était adjudicateur d'une fourniture de cidre pour l'hôpital de Neuchâtel. Monsieur Guillaumin lui promettait des actions dans les tourbières de Grumesnil, et il rêvait d'établir un nouveau service de diligence entre Argueil et Rouen, qui ne tarderait pas sans doute à ruiner la guimbarde du Lion d'Or, et qui, marchant plus vite, étant un prix plus bas et portant plus de bagages, lui mettrait ainsi dans les mains tout le commerce d'Yonville. Charles se demanda plusieurs fois par quels moyens, l'année prochaine, pouvoir rembourser tant d'argent. Et il cherchait, imaginait des expédients, comme de recourir à son père ou de vendre quelque chose, mais son père serait sourd, et il n'avait, lui, rien à vendre. Alors il découvrait de tels embarras qu'il écartait vite de sa conscience un sujet de méditation aussi désagréable. Il se reprochait d'en oublier Emma, comme si toutes ses pensées appartenaient à cette femme. C'eût été lui dérober quelque chose que de n'y pas continuellement réfléchir. L'hiver fut rude. La convalescence de madame fut longue. Quand il faisait beau, on la poussait dans son fauteuil auprès de la fenêtre, celle qui regardait la place, car elle avait maintenant le jardin en antipathie, et la persienne de ce côté restait constamment fermée. Elle voulut que l'on vendît le cheval. Ce qu'elle aimait autrefois, à présent, lui déplaisait. Toutes ses idées paraissaient se borner aux soins d'elle-même. Elle restait dans son lit à faire de petites collations, sonnait sa domestique pour s'informer de ses tisanes ou pour causer avec elle. Cependant, la neige sur le toit des halles jetait dans la chambre un reflet blanc, immobile. Ensuite, ce fut la pluie qui tombait. Emma quotidiennement attendait, avec une sorte d'anxiété, l'infaillible retour d'événements minimes qui pourtant ne lui importaient guère. Le plus considérable était, le soir, l'arrivée de l'hirondelle. Alors l'aubergiste criait, et d'autres voix répondaient, tandis que le falot d'Hippolyte, qui cherchait des coffres sur la bâche, faisait comme une étoile dans l'obscurité. À midi, Charles rentrait. Ensuite, il sortait. Puis elle prenait un bouillon, et vers 5 heures, à la tombée du jour, les enfants qui s'en revenaient de la classe, traînant leurs sabots sur le trottoir, frappaient tous avec leurs règles la cliquette des auvents, les uns après les autres. C'était à cette heure-là que M. Bournisien venait la voir. Il s'enquérait de sa santé, lui apportait des nouvelles et l'exhortait à la religion dans un petit bavardage câlin qui ne manquait pas d'agrément. La vue seule de sa soutane la réconfortait. Un jour, qu'au plus fort de sa maladie, elle s'était crue agonisante, elle avait demandé la communion. Et à mesure que l'on faisait dans sa chambre les préparatifs pour le sacrement, que l'on disposait en l'autel la commode encombrée de sirop, et que Félicité semait par terre des fleurs de dahlia, Emma sentait quelque chose de fort passant sur elle, qui la débarrassait de ses douleurs, de toute perception, de tout sentiment. Sa chair allégée ne pesait plus, une autre vie commençait. Il lui sembla que son être montant vers Dieu allait s'anéantir dans cet amour comme un encens allumé qui se dissipe en vapeur. On aspergea d'eau bénite les draps du lit, le prêtre retira du Saint-Ciboire la blanche hostie, et ce fut en défaillant d'une joie céleste qu'elle avança les lèvres pour accepter le corps du Sauveur qui se présentait. Les rideaux de son alcôve se gonflaient mollement autour d'elle en façon de nuée, et les rayons des deux cierges brûlant sur la commode lui parurent être des gloires éblouissantes. Alors elle laissa retomber sa tête, croyant entendre dans les espaces le chant des harpes séraphiques et apercevoir en un ciel d'azur sur un trône d'or, au milieu des saints tenant des palmes vertes, Dieu le Père tout éclatant de majesté et qui d'un signe faisait descendre vers la terre des anges aux ailes de flamme pour l'emporter dans leurs bras. Cette vision splendide demeura dans sa mémoire comme la chose la plus belle qu'il fût possible de rêver. Si bien qu'à présent, elle s'efforçait d'en ressaisir la sensation, qui continuait cependant, mais d'une manière moins exclusive et avec une douceur aussi profonde. Son âme courbattue d'orgueil se reposait enfin dans l'humilité chrétienne, et savourant le plaisir d'être faible, Emma contemplait en elle-même la destruction de sa volonté, qui devait faire aux envahissements de la grâce une large entrée. Il existait donc à la place du bonheur des félicités plus grandes, un autre amour au-dessus de tous les amours, sans intermittence ni fin, et qui s'accroîtrait éternellement. Elle entrevit parmi les illusions de son espoir un état de pureté flottant au-dessus de la terre, se confondant avec le ciel, et où elle aspira d'être. Elle voulut devenir une sainte. Elle acheta des chapelets, elle porta des amulettes. Elle souhaitait avoir dans sa chambre, au chevet de sa couche, un reliquaire enchâssé d'émeraudes pour le baiser tous les soirs. Le curé s'émerveillait de cette disposition, bien que la religion d'Emma, trouvait-il, pût à force de ferveur finir par friser l'hérésie et même l'extravagance. Mais n'étant pas très versé dans ces matières, sitôt qu'elle dépassait une certaine mesure, il écrivit à M. Boulard, libraire de Monseigneur, de lui envoyer quelque chose de fameux pour une personne du sexe qui était pleine d'esprit. Le libraire, avec autant d'indifférence que s'il eût expédié de la quincaillerie à des nègres, vous emballa pêle-mêle tout ce qui avait cours pour lors dans le négoce des livres pieux. C'étaient de petits manuels par demande et par réponse, des pamphlets d'un ton rogue dans la manière de Monsieur de Maître, et des espèces de romans à cartonnage rose et à style douceâtre, fabriqués par des séminaristes troubadours ou des babeleux repentis. Il y avait le « Pensez-y bien », « L'homme du monde aux pieds de Marie » par Monsieur de, décoré de plusieurs ordres, des « Erreurs de Voltaire à l'usage des jeunes gens », etc. Madame Bovary n'avait pas encore l'intelligence assez nette pour s'appliquer sérieusement à n'importe quoi. D'ailleurs, elle entreprit ses lectures avec trop de précipitation. Elle s'irrita contre les prescriptions du culte. L'arrogance des écrits polémiques lui déplut par leur acharnement à poursuivre des gens qu'elle ne connaissait pas, et les contes profanes relevés de religion lui parurent écrits dans une telle ignorance du monde qu'ils l'écartèrent insensiblement des vérités dont elle attendait la preuve. Elle persista pourtant, et lorsque le volume lui tombait des mains, elle se croyait prise par la plus fine mélancolie catholique qu'une âme éthérée pût concevoir. Quant au souvenir de Rodolphe, elle l'avait descendu tout au fond de son cœur, et il restait là, plus solennel et plus immobile qu'une momie de roi dans un souterrain. Une exhalaison s'échappait de ce grand amour embaumé, et qui, passant à travers tout, parfumait de tendresse l'atmosphère d'immaculation où elle voulait vivre. Quand elle se mettait à genoux sur son prie-dieu gothique, elle adressait au Seigneur les mêmes paroles de suavité qu'elle murmurait jadis à son amant dans les épanchements de l'adultère. C'était pour faire venir la croyance, mais aucune délectation ne descendait des cieux. Et elle se relevait, les membres fatigués, avec le sentiment vague d'une immense duperie. Cette recherche, pensait-elle, n'était qu'un mérite de plus. Et dans l'orgueil de sa dévotion, Emma se comparait à ces grandes dames d'autrefois dont elle avait rêvé la gloire sur un portrait de la Vallière, et qui, traînant avec tant de majesté la queue chamarrée de leurs longues robes, se retiraient en des solitudes pour y répandre aux pieds du Christ toutes les larmes d'un cœur que l'existence blessait. Alors elle se livra à des charités excessives. Elle cousait des habits pour les pauvres. Elle envoyait du bois aux femmes sans couche. Et Charles, un jour en rentrant, trouva dans la cuisine trois vauriens attablés qui mangeaient un potage. Elle fit revenir à la maison sa petite fille, que son mari, durant sa maladie, avait renvoyée chez la nourrice. Elle voulut lui apprendre à lire. Berthe avait beau pleurer, elle ne s'irritait plus. C'était un parti pris de résignation, une indulgence universelle. Son langage à propos de tout était plein d'expressions idéales. Elle disait à son enfant: ta colique est-elle passée, mon ange? Madame Bovary, mère, ne trouvait rien à blâmer, sauf peut-être cette manie de tricoter des camisoles pour les orphelins au lieu de raccommoder ses torchons. Mais harassée de querelles domestiques, la bonne femme se plaisait en cette maison tranquille, et même elle y demeura jusqu'après Pâques, afin d'éviter les sarcasmes du père Bovary, qui ne manquait pas tous les vendredis saints de se commander une andouille. Outre la compagnie de sa belle-mère, qui la raffermissait un peu par sa rectitude de jugement et ses façons graves, Emma, presque tous les jours, avait encore d'autres sociétés. C'était Madame Langlois, Madame Caron, Madame Dubreuil, Madame Tuvache, et régulièrement, de 2 à 5 heures, l'excellente Madame Homais, qui n'avait jamais voulu croire celle-là à aucun des cancans que l'on débitait sur sa voisine. Les petits Homais aussi venaient la voir. Justin les accompagnait. Il montait avec eux dans la chambre, et il restait debout près de la porte, immobile, sans parler. Souvent même Madame Bovary, n'y prenant garde, se mettait à sa toilette. Elle commençait par retirer son peigne en secouant sa tête d'un mouvement brusque, et quand il aperçut la première fois cette chevelure entière qui descendait jusqu'aux jarrets en déroulant ses anneaux noirs, ce fut pour lui, le pauvre enfant, comme l'entrée subite dans quelque chose d'extraordinaire et de nouveau dont la splendeur l'effraya. Emma sans doute ne remarquait pas ses empressements silencieux ni ses timidités. Elle ne se doutait point que l'amour, disparu de sa vie, palpitait là, près d'elle, sous cette chemise de grosse toile, dans ce cœur d'adolescent, ouvert aux émanations de sa beauté. Du reste, elle enveloppait tout maintenant d'une telle indifférence, elle avait des paroles si affectueuses et des regards si hautains, des façons si diverses, que l'on ne distinguait plus l'égoïsme de la charité, ni la corruption de la vertu. Un soir, par exemple, elle s'emporta contre sa domestique qui lui demandait à sortir, et balbutiait en cherchant un prétexte, et puis tout d'un coup, « Tu l'aimes donc ?» dit-elle. Et sans attendre la réponse de félicité qui rougissait, elle ajouta d'un air triste, « Allons, cours-y, amuse-toi. » Elle fit au commencement du printemps bouleverser le jardin d'un bout à l'autre, malgré les observations de Bovary. Il fut heureux cependant de lui voir enfin manifester une volonté quelconque. Elle en témoigna davantage à mesure qu'elle se rétablissait. D'abord, elle trouva un moyen d'expulser la mère Rollet, la nourrice qui avait pris l'habitude, pendant sa convalescence, de venir trop souvent à la cuisine avec ses deux nourrissons et son pensionnaire plus endenté qu'un cannibale. Puis elle se dégagea de la famille Homais, congédia successivement toutes les autres visites et même fréquenta l'église avec moins d'assiduité, à la grande approbation de l'apothicaire, qui lui dit alors amicalement « Vous donniez un peu dans la calotte. » Monsieur Bournisien, comme autrefois, survenait tous les jours en sortant du catéchisme. Il préférait rester dehors à prendre l'air au milieu du bocage. Il appelait ainsi la tonnelle. C'était l'heure où Charles rentrait. Ils avaient chaud, on apportait du cidre doux, et ils buvaient ensemble au complet rétablissement de madame. Binet se trouvait là, c'est-à-dire un peu plus bas, contre le mur de la terrasse, à pêcher des écrevisses. Bovary l'invitait à se rafraîchir et il s'entendait parfaitement à déboucher les cruchons. « Il faut, disait-il en promenant autour de lui et jusqu'aux extrémités du paysage, un regard satisfait, tenir ainsi la bouteille d'aplomb sur la table. Et après que les ficelles sont coupées, pousser le liège à petits coups, doucement, doucement, comme on fait d'ailleurs à l'Old Celts dans les restaurants. » Mais le cidre, pendant sa démonstration, souvent leur jaillissait en plein visage. Et alors l'ecclésiastique, avec un rire opaque, ne manquait jamais cette plaisanterie. Sa bonté saute aux yeux. Il était brave homme, en effet, et même un jour ne fut point scandalisé du pharmacien qui conseillait à Charles, pour distraire madame, de l'amener au théâtre de Rouen, voir l'illustre ténor Lagardy. Homais, s'étonnant de ce silence, voulut savoir son opinion. Et le prêtre déclara qu'il regardait la musique comme moins dangereuse pour les mœurs que la littérature. Mais le pharmacien prit la défense des lettres. Le théâtre, prétendait-il, servait à fronder les préjugés et sous le masque du plaisir enseignait la vertu. Castigat ridendo mores, monsieur Bournisien. Ainsi regardez la plupart des tragédies de Voltaire. Elles sont semées habilement de réflexions philosophiques qui en font pour le peuple une véritable école de morale et de diplomatie. « Moi, dit Binet, j'ai vu autrefois une pièce intitulée « Le gamin de Paris » où l'on remarque le caractère d'un vieux général qui est vraiment tapé. Il rembarre un fils de famille qui avait séduit une ouvrière qui, à la fin, certainement... continuait Homais. Il y a la mauvaise littérature comme il y a la mauvaise pharmacie, mais condamner en bloc le plus important des beaux-arts me paraît une balourdise, une idée gothique, digne de ces temps abominables où l'on enfermait Galilée. « Je sais bien, objecta le curé, qu'il existe de bons ouvrages, de bons auteurs. Cependant, ne serait-ce que ces personnes de sexe différent réunies dans un appartement enchanteur, ornées de pompes mondaines, et puis ces déguisements païens, ce phare, ces flambeaux, ces voix efféminées, tout cela doit finir par engendrer un certain libertinage d'esprit et vous donner des pensées déshonnêtes, des tentations impures. Telle est du moins l'opinion de tous les pères. » Enfin, ajouta-t-il en prenant subitement un ton de voix mystique, tandis qu'il roulait sur son pouce une prise de tabac, si l'Église a condamné les spectacles, c'est qu'elle avait raison, et il faut nous soumettre à ses décrets. Pourquoi, demanda l'apothicaire, excommunie-t-elle les comédiens? Car autrefois, ils concouraient ouvertement aux cérémonies du culte. Oui, on jouait. On représentait au milieu du chœur des espèces de farces, appelées mystères, dans lesquelles les lois de la décence souvent se trouvaient offensées. L'ecclésiastique se contenta de pousser un gémissement et le pharmacien poursuivit. C'est comme dans la Bible. Il y a, savez-vous, plus d'un détail piquant, des choses vraiment gaillardes. Et sur un geste d'irritation que faisait M. Bournisien, « Ah, vous conviendrez que ce n'est pas un livre à mettre entre les mains d'une jeune personne. Et je serais fâchée, Cathalie. Mais ce sont les protestants et non pas nous !» s'écria l'autre impatienté, « qui recommande la Bible. »« N'importe, » dit Homais. « Je m'étonne que de nos jours, en un siècle de lumière, on s'obstine encore à proscrire un délassement intellectuel qui est inoffensif, moralisant et même hygiénique, quelquefois, n'est-ce pas, docteur ?»« Sans doute, » répondit le médecin nonchalamment, soit que, ayant les mêmes idées, il voulût n'offenser personne, ou bien qu'il n'eût pas d'idées. » La conversation semblait finie quand le pharmacien jugea convenable de pousser une dernière botte. « J'en ai connu une des prêtres qui s'habillait en bourgeois pour aller voir gigoter des danseuses. »« Allons donc, fit le curé. Ah, j'en ai connu. Et séparant les syllabes de sa phrase, Homais répéta, j'en ai connu. Eh bien, ils avaient tort, dit Bournisien, résigné à tout entendre. Parbleu, ils en font bien d'autres, exclama l'apothicaire. Monsieur, reprit l'ecclésiastique avec des yeux si farouches que le pharmacien en fut intimidé. Je veux seulement dire, répliqua-t-il alors d'un ton moins brutal, que la tolérance est le plus sûr moyen d'attirer les âmes à la religion. C'est vrai, concéda le bonhomme en se rasseyant sur sa chaise. Mais il n'y resta que 2 minutes. Puis dès qu'il fut parti, M. Homais dit au médecin. Voilà ce qui s'appelle une prise de bec. J'ai roulé, vous avez vu, d'une manière. Enfin, croyez-moi, conduisez madame au spectacle, ne serait-ce que pour faire une fois dans votre vie enrager un de ces corbeaux-là, saprelotte. Si quelqu'un pouvait me remplacer, je vous accompagnerais moi-même. Dépêchez-vous, la Gardie ne donnera qu'une seule représentation. Il est engagé en Angleterre à des appointements considérables. C'est à ce qu'on assure un fameux lapin. Il roule sur l'or et il mène avec lui 3 maîtresses et son cuisinier. Tous ces grands artistes brûlent la chandelle par les deux bouts. Il leur faut une existence dévergondée qui excite un peu l'imagination. Mais ils meurent à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas eu l'esprit étant jeunes de faire des économies. Allez, bon appétit, à demain. Cette idée de spectacle germa vite dans la tête de Bovary, car aussitôt il en fit part à sa femme, qui refusa tout d'abord, alléguant la fatigue, le dérangement, la dépense. Mais par extraordinaire, Charles ne céda pas, tant il jugeait cette récréation lui devoir être profitable. Il n'y voyait aucun empêchement. Sa mère leur avait expédié 300 francs, sur lesquels ils ne comptaient plus, les dettes courantes n'avaient rien d'énorme, et l'échéance des billets à payer au sieur Lheureux était encore si longue qu'il n'y fallait pas songer. D'ailleurs, imaginant qu'elle y mettait de la délicatesse, Charles insista davantage, si bien qu'elle finit, à force d'obsession, par se décider. Et le lendemain, à 8 heures, ils s'emballèrent dans l'hirondelle. L'apothicaire, que rien ne retenait à Yonville, mais qui se croyait contraint de n'en pas bouger, soupira en les voyant partir. « Allons, bon voyage !» leur dit-il. « Heureux mortels que vous êtes !» Puis s'adressant à Emma, qui portait une robe de soie bleue à 4 falbalas, « Je vous trouve jolie comme un amour. Vous allez faire Florès à Rouen. » La diligence descendait à l'hôtel de la Croix-Rouge sur la place Beauvoisine. C'était une de ces auberges, comme il y en a dans tous les faubourgs de province, avec de grandes écuries et de petites chambres à coucher, où l'on voit au milieu de la cour des poules picorant l'avoine sous les cabriolets crottés des commis voyageurs. Bon vieux gîte à balcon de bois vermoulu, qui craque au vent dans les nuits d'hiver, continuellement plein de monde, de vacarme et de mangeailles, dont les tables noires sont poissées par les glorias, les vitres épaisses jaunies par les mouches, les serviettes humides tachées par le vin bleu, et qui sentant toujours le village, comme des valets de ferme habillés en bourgeois, ont un café sur la rue et du côté de la campagne, un jardin à légumes. Charles immédiatement se mit en course. Il confondit l'avant-scène avec les galeries, le parquet avec les loges, demanda des explications, ne les comprit pas, fut renvoyé du contrôleur au directeur, revint à l'auberge, retourna au bureau et plusieurs fois ainsi arpenta toute la longueur de la ville, depuis le théâtre jusqu'au boulevard. Madame s'acheta un chapeau, des gants, un bouquet. Monsieur craignait beaucoup de manquer le commencement et sans avoir eu le temps d'avaler un bouillon, ils se présentèrent devant les portes du théâtre qui étaient encore fermées.